j'envoie trop mourir au combat. Poussez-vous là, j'arrive, je suis comme l'inverse. Toi, tu sais.
Bonjour tout le monde, enfin Spectaculaire commence, émission 341, mercredi 9 octobre 2024, 14h06, mais quel retard. Bon, peut-être qu'on le rattrapera en dépassant un petit peu sur 15h, nous verrons cela. Christophe Roland au micro, je suis sans Francis qui peine à revenir en ce début de nouvelle saison. C'est difficile, mais il me l'a promis, il reviendra, il finira par bien tenir, faire ses chroniques à l'antenne. Ce ne sera donc pas pour aujourd'hui. En revanche, j'ai bien une invitée, je suis avec Odile Nguyen Schoendorf, autrice, philosophe, poétesse, et également directrice de publication de l'Ouroboros. Qu'est-ce donc? Une revue d'art. Alors, je crois qu'il y a un jeu de mots dessus, d'art, D'ART, une revue qui parle d'art, mais une revue aussi d'art, une revue qui pique. Et j'ai parlé d'art, non attention, hein, la revue évoque toutes ces thématiques que je vais énoncer, attention, hein, que je vais énumérer, il y en a un paquet. Littérature, poésie, philosophie, art visuel, cinéma, photographie, théâtre, musique, psychologie, psychiatrie, psychanalyse, ethnologie, anthropologie, mythologie et pratique militante. Le numéro 8 est sorti au printemps dernier, le numéro 9 est imminent, alors peut-être pas pour octobre ni novembre, mais courant décembre il devrait arriver. Et donc notre invité vient tout d'abord faire un portrait d'elle-même, certes, mais aussi de cette revue, une revue donc très particulière, une revue très intéressante, et on va parcourir peut-être tous ces numéros précédents déjà sortis, et puis peut-être évoquerons-nous aussi les numéros à venir, le 9 justement très prochain, peut-être le 10, le 11, le 12, nous verrons tout cela. Commençons avec un titre musical qui est complètement en rapport avec ce que je suis en train d'évoquer, Sans Limite, un titre de Thurston Moore, hein, qui était du groupe des Sonic Youth. C'est extrait de la bande sonore, oui, Les Inoccupables, le numéro octobre 2024. Écoutons ce Sans Limite et nous continuons avec notre invité. Nous sommes et vous êtes également bien sur radiocanu.org si vous nous écoutez sur internet. Ici c'est à Lyon, très bonne chose aussi, c'est 102.2 de la bande FM.
Thank you.
sans limite. Voilà, c'était le titre pour démarrer cette émission. Et cette émission qui va être consacrée à la revue L'Ouroboros. Voici une présentation que la revue fait d'elle-même. La revue L'Ouroboros est auto-éditée et auto-distribuée par la formidable équipe bénévole de l'association Revue L'Ouroboros, très attachée à notre indépendance et à notre vocation non lucrative. Nous serons au regret de décliner toute proposition de rachat par messieurs Arnaud et Bolloré. Nous avons à cœur de présenter des artistes confirmés comme des talents émergents. Nous apprécions d'ailleurs toute proposition de contribution. Depuis le premier numéro de la revue, paru à l'automne 2020, nous sommes heureux d'avoir publié nos deux numéros annuels, l'un au printemps, le deuxième en automne, ce qui s'est avéré une réelle performance. Ce numéro 6 n'aurait pu exister, donc voilà, j'extrais ce propos du numéro 6, mais j'aurais pu aussi lire la présentation du numéro 7, qui est venu, c'était l'année suivante, je crois. Très intéressante aussi. Revue L'Ouroboros est une femme. Notre revue initiée dirigée par des femmes, agréablement accompagnée de quelques hommes, L'Ouroboros souhaite ici attirer votre attention sur sa mutation. L'Ouroboros transgenre, comprenons-nous bien, pas question de remâcher ici un sexisme plein de ressentiment. L'Ouroboros n'est pas devenu et ne deviendra pas Ross. Nous aimons toujours les hommes. Vous trouverez ou retrouverez dans ce numéro nombre de talents masculins, pinceaux et plumes qui vous sont déjà ou vous seront définitivement chers à juste titre. Vous continuez, je soupçonne Odile Nguyen-Schendorf. Bonjour.
Bonjour.
Je vous soupçonne d'être l'autrice de ces textes de présentation. Me trompais-je ou c'est bien le cas ?
C'est bien le cas. C'est moi la coupable de cette proposition féministe, mais non sexiste, comme vous avez bien fait de le rappeler.
Et militante aussi, ça c'était dans l'autre numéro.
Et militante, je tiens beaucoup à cette rubrique des pratiques militantes. Et c'est tout l'esprit d'ailleurs de cette revue, Belle et Rebelle, selon un cliché qui nous fait du bien.
Ah bon, on l'utilise nous à Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Alors, c'est une rencontre
qui s'imposait. Rencontre qui va commencer peut-être pour cette interview avec une première partie. Normalement, on accorde un temps à l'invité pour qu'il se présente lui-même. Donc, bien entendu, vous êtes ici pour présenter la revue L'Ouroboros, mais pourriez-vous, dans un premier temps, avant que nous parlions plus précisément de cette revue, du numéro 8 sorti il y a peu, en mai dernier, juste avant l'été, du numéro 9 qui va arriver avant la fin d'année civile, pourriez-vous un peu brosser votre portrait qui vous fait démarrer avec un peu de philosophie, je crois, notamment autour de la figure de Rousseau, et vous fait arriver à écrire des poèmes, en passant par cette belle collection « Je suis » ou bien « Nous sommes », le numéro que j'ai entre les mains. Pourriez-vous donc nous brosser tout cela ? Et vous êtes même lyonnaise, hein, je crois, avec Max Schendorf aussi.
Lyonnaise d'adoption, mais je suis venue à Lyon à l'âge de 4 ans, donc je me considère comme lyonnaise. Et souvent, les Lyonnais les plus enthousiastes sont ceux qui se sont convertis à la lyonnaiserie. Voilà, donc j'ai fait des études tout à fait classiques au lycée Édouard Herriot, place Edgar Quinet.
J'y étais aussi.
Ah, nous étions collègues, condisciples, et avec un petit décalage horaire.
À peine. Mais vous décrochez l'agrégation tout de même, vous.
Oui, alors j'ai fait Hippocagne, j'ai décroché l'agrégation, effectivement, de philosophie, avec une hésitation longtemps entre les lettres et la philosophie, mais je ne voulais pas disséquer les poèmes, donc j'ai préféré me lancer dans la philo et faire de la poésie par ailleurs, et puis plein d'autres choses diverses et variées, comme maintenant cette revue.
Cette figure de Jean-Jacques Rousseau qui se trouve quand même être suisse, il me semble que L'Ouroboros, on l'évoquera, il y a aussi un grand tropisme suisse dans cette revue. Pourquoi cette figure ? Est-ce que, parce que moi, il me semble que derrière Jean-Jacques Rousseau, derrière cet homme, derrière ce philosophe, se trouve beaucoup de Odile Nguyen-Schendorf et également de la revue L'Ouroboros.
Oui, alors si je peux me permettre, c'est un peu prétentieux, mais c'est une rencontre, Jean-Jacques Rousseau et moi, tout simplement. J'ai commis chez Jacques André, éditeur, un petit « Je suis Jean-Jacques Rousseau », carrément. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Rousseau a été un grand mal-aimé, mais j'aime chez lui son côté rebelle, son côté affectif. qui l'oppose, enfin, auquel Kant s'opposera, parce que lui pense que la passion est ce qui guide les hommes, et en même temps, il a une très grande exigence de justice sociale. Bon, c'est l'auteur du magnifique Contrat social, de romans absolument éblouissants et féministes, quoi qu'on en dise.
Cette nouvelle Héloïse.
Voilà, la nouvelle Héloïse, que j'engage tout le monde à relire. Les femmes s'évanouissaient quand le roman est sorti, elles allaient le lire en librairie, et il y a eu des cas d'évanouissement. Donc ce Rousseau est effectivement une de mes grandes rencontres en philosophie, réunissant mon amour de la poésie, de la littérature et du sentiment, parce que la philosophie, il ne faut pas qu'elle devienne trop desséchée, mais il faut aussi que la poésie pense, donc d'où la rencontre, voilà, entre les deux disciplines.
Bon, il me semble que vous êtes en train de nous dire comment est né l'Ouroboros. J'ai l'impression qu'on est à fin des années 2018-19, ça, on entre dans la décennie de 2020, donc comment est-ce que cette Ouroboros est née, je ne sais pas s'il faut dire née et est-elle, est-elle donc un serpent qui se mord la queue, c'est la figure de cette Ouroboros, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Alors peut-être pourrions-nous un peu de chronologie avant d'entrer dans les pages mêmes de ces
voilà,
différentes revues.
Donc c'est le résultat, c'est le fruit de nombreuses rencontres et réflexions, entre autres avec au départ l'éditeur Jacques André qui souhaitait faire une revue.
Jacques André, il faut une seconde, je vous coupe, oui. je m'en veux. C'est donc cette collection, je lançais le titre tout à l'heure, cette collection Je suis. Vous avez écrit beaucoup de ces Je suis. Et c'est, l'idée, c'est de réaliser une autobiographie documentée, c'est ça? Enfin, comment dire, une biographie documentée, mais à la première personne.
Voilà, c'est l'autobiographie d'un autre, comme dit très bien Jean-Paul Chiche, qui était directeur de collection.
Vous en avez
chez Jacques André.
Écrit plusieurs. Hein,
alors j'en ai écrit.
Vous avez été François Rabelais.
Oui, alors
Puvis
de
Chavannes,
Claude Bernard, François Rabelais, Puvis de Chavannes, Jean-Jacques Rousseau, Paul Éluard, qui est un de mes poètes préférés, j'en oublie évidemment.
Et vous avez fait un Nous sommes donc, puisque ce sont les deux frères.
Carrément, les frères Lumière. Donc là, je me suis démultipliée pour écrire sous le conseil de notre ami récemment disparu, Bernard Charbert, qui m'a conseillé, et avec l'aide bienveillante de Thierry Frémaux, qui m'a communiqué des très belles images. C'est une belle réussite. Et d'ailleurs, toute cette histoire de publication, c'est une histoire de rencontre, parce que je ne crois qu'au collectif. Donc nous avons entre amis, entre collègues, entre frères et sœurs, entre proches intéressés par l'art, nous avons fini par concevoir cet animal un peu monstrueux, fabuleux, dont vous parliez tout à l'heure.
L'ouroboros,
le serpent qui est censé se mordre la queue, mais il est aussi lemniscate, c'est-à-dire il peut être debout, vaillamment, il peut être en spirale, et se mordre la queue n'est pas un signe de stérilité, mais au contraire, comme on peut le voir dans nos 8 publications, et bientôt dans la 9e qui sera encore plus magnifique, voilà, la publicité est permise à Radio Canut.
Un cycle, c'est ça, il y a un petit peu de l'infini, de l'éternité.
C'est l'éternité, donc on aurait pu prendre le phénix qui renaît de ses cendres, qui continue vaillamment. Donc l'ouroboros, c'est l'animal qui ne renonce jamais, l'animal audacieux et non pas stérile.
Et donc, je vous interrompais, mais vous avez bien repris le fil, c'est Jean-Jacques André, enfin non, Jacques André, éditeur.
Oui, c'est Rousseau, Jean-Jacques.
Oui,
c'est très pas conforme.
J'ajoute un prénom. Donc, Jacques André, éditeur lyonnais, hein, je suppose, oui.
Il fut lyonnais, il s'est exilé maintenant à Marmande, près de Bordeaux, je crois. Donc,
et donc, une revue, si on reprend cette chronologie, l'idée d'une revue était... Dans les tuyaux, enfin comment dire, avait été évoqué, abordé.
Exactement, c'était un vieux rêve de cet éditeur, et qui nous a transmis à plusieurs de ses auteurs ce désir de faire une revue. Et après, le verre était dans le fruit. Donc on n'avait pas tout à fait la même vision de ce que devait être une revue, et l'équipe a un peu changé, s'est modifiée en cours de route, mais l'idée est restée, et c'est, comment dire, améliorée, enrichie, diversifiée au fur et à mesure des publications et des rencontres.
Vous êtes resté, vous n'êtes tout de même pas la seule, comment dire, la seule personne qui soit de tous les numéros, du premier numéro 1 jusqu'au numéro 8 sorti en mai dernier. L'équipe, il y a quand même il y a un noyau, non, je suppose. Il y a tout de même des figures qui sont revenues. Je pense à Philippe Roger, d'autres
oui.
aussi. Donc il a plusieurs figures. Et surtout, alors peut-être qu'on l'évoque tout de suite, où il y a une forme de... Les numéros sont assez construits. Et oui, je pense qu'il faut le dire à présent. Il y a régulièrement des pages qui sont consacrées. Vous avez nommé cela Tombeau. Pourriez-vous en dire un peu plus, Odile ?
Oui, alors la revue se présente comme un être, un serpent pluridisciplinaire qui ne s'interdit rien. On va y trouver aussi bien de la poésie, de la prose, de la peinture...
De la bande dessinée.
Des chroniques
de films.
Des chroniques de philo.
Priscilla Orvillère, qui aurait dû être là la semaine dernière, a été... vous avez publié de nombreuses pages dans le numéro 8, précédent le numéro de mai dernier, sur sa baronesse du jazz, la... Panonica, voilà,
Panonica.
Königsbarter.
Oui. Oui, cette bande dessinée absolument magistrale, très, très, très passionnante. Et on a eu un grand plaisir à retrouver Priscilla Orvillère, qui était l'élève de ma vice-présidente de la revue, Françoise Jacquin. On s'aperçoit qu'à Lyon, finalement, on se retrouve, on ne se trouve pas, on se retrouve toujours en famille.
Il y a des poèmes aussi dans cette revue.
Alors, il y a beaucoup de poèmes, effectivement, on commence. Je pense qu'il faut toujours commencer par la poésie. Il y a des gens que ça ennuie, mais on pratique des choix très, très pertinents. Et il y a des poètes locaux, lyonnais, des poètes romanches, donc qui écrivent dans une langue tout à fait singulière, ce qui magnifie notre empreinte suisse, parce que nous sommes une revue franco-suisse, et notamment on travaille beaucoup avec les jeunes voix. Et ceci depuis, c'est depuis longtemps que nous sommes parents avec la Suisse, puisque l'Urdla, qui a été fondée par mon frère Max Schoendorf.
L'utopie raisonnée.
Utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art. Hein, c'est bien. Vous avez
années 60, 70, c'est ça ? C'est assez ancien.
Oui, c'est assez ancien, mais l'installation à Villeurbanne doit dater des années... 75, il faut que je révise ma chronologie.
Et donc vous l'avez nommé, on y arrive.
Et j'ai nommé Max, puisque vous parliez du tombeau. Bon, je n'aime pas ce terme, évidemment, je préférerais qu'il soit avec nous, mais il est toujours avec nous, puisqu'on prépare une grande exposition au Fort de Vaise. Voilà, ça c'est un scoop pour l'automne prochain, et Max est toujours là. Et,
dans chaque
numéro, on essaie de mettre un tout petit peu de son œuvre immense, parce que on le sait un peu à Lyon, mais peut-être pas assez. Max a été un passeur, il a été un créateur d'institutions, de la MAPRA, de l'URDLA. Il écrivait des poèmes aussi. Il a fait de la peinture, il a fait des dessins, et que n'a-t-il pas fait ? Il a fait
du théâtre. Du cinéma même, paraît-il.
Il a fait du cinéma, il a joué.
Un rôle dans ce... Un condamné à mort s'est échappé. On en parlait tout à l'heure hors antenne.
Robert Bresson, on en parlait hors antenne. Donc, que n'a-t-il pas fait et que n'aurait-il pas fait s'il ne nous avait pas quitté prématurément ? Mais donc, c'est un génie polymorphe. Et un acteur de la vie culturelle très précieux, qui faisait se rencontrer les gens aussi, qui était partisan du collectif et engagé au service de l'art et engagé tout court.
Je crois que nous sommes, vous nous avez mené parfaitement à la transition, comment dire, à cette pause musicale que nous allons nous accorder à présent avant d'entrer plus en avant dans les pages. On pourrait peut-être feuilleter quelques-unes de ces revues de l'Ouroboros. La pause musicale, je l'ai sous les yeux, Le Condamné à mort, une œuvre de Jean Genet qui a été donc adaptée, qui a été chantée, je crois qu'on peut le dire comme cela, aussi simplement par Étienne Dao, notamment il y a peu, si peut-être 10 ans peut-être à peu près, oui 2010, j'ai sous les yeux. Et donc vous nous proposiez d'écouter le titre Sur mon cou. C'est bien celui-ci.
Voilà, donc moi ça me paraît très récent parce qu'il a fait une adaptation que je trouve très, très réussie. Je crois que la chanson est expurgée de ses strophes les plus pornographiques parce que Jean Genet avait écrit un texte sulfureux comme il savait en composer.
Alors zut, j'ai voulu lancer le titre, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ça va marcher. On va bien entendre le Sur mon cou. Je prépare la chose. Ah, c'est dommage, hein, c'était très bien. Vous nous aviez fait une, Odile, je vous remercie, une belle présentation en parlant de d'expurgation. C'était très bien. Voilà,
le condamné ne porte pas.
Voilà, chance. Le titre est ici. Voilà, le titre est présent Sur mon cou. C'est même une version live, donc Étienne Dao. Et nous continuons. Mais c'est très bien comme cela. Ainsi, ça me permet d'évoquer à nouveau notre invité, Odile Nguyen Schoendorf, pour parler de la revue L'Ouroboros. 8 numéros sont déjà sortis. Un numéro 9 est imminent. Vous souhaitez en savoir davantage, auditeurs, auditrices, eh bien, restez bien avec nous. Nous en reparlons dans quelques instants.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, et d'après l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit, ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent. Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends et marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, si le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
C'est bien, oui, il me semble une version live d'un morceau, c'est pas toujours, satisfaisant, mais là, celle-ci me semblait tout à fait belle, me semblait... Odile,
tout à fait adapté.
Tout à fait adapté,
c'est très bien. À nous qui sommes live.
Sommes en train de parler de la revue L'Ouroboros, revue d'art. Il y a un tiret entre les deux mots et le deuxième est écrit...
D-A-R-D.
D-A-R-D, tout accroché.
Voilà, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et je vous engage à la découvrir dans toutes les bonnes librairies.
On peut en citer quelques-unes.
Quelques-unes, oui. Ça peut être le Bal des Ardents, ça peut être les
Livres
en Pente.
Francis Chaput est venu à l'émission, mais alors je crois que c'était l'émission 40.
D'accord,
il y a
oui,
peut-être
ça date.
11 ans, oui, c'est ça, effectivement. Ça remonte à 2013-14, je crois. L'œil cacodilate, qui est un peu plus loin.
Et l'œil cacodilate, qui est...
Ex-Michel Descours.
Partenaire, ex... Vous dites Descours, moi je dis Descours.
Oui,
il y a une petite... Ouais. Voilà, il y a une petite discussion à Lyon entre Descours et Descours. Maintenant, la chose est réglée.
Bal des Ardents, c'est à côté de chez nous. C'est le premier arrondissement. Et l'œil cacodilate, c'est un peu plus bas, sur vers quartier, je sais pas, entre Perrache et Bellecour.
Oui, voilà, en plein milieu, entre Perrache et Bellecour, rue Auguste Comte, 33 rue Auguste Comte, je crois, 31, je ne sais plus. Et voilà, et puis on est dans toutes les bonnes librairies lyonnaises, la librairie de la Madeleine, dans mon quartier. Et puis on est à Paris, dans les bonnes librairies, on peut s'abonner aussi sur le site www.revueloureboros.fr. Voilà. Et toutes les... Alors, les revues, elles ont une espèce d'unité dans leur polymorphisme. Poésie, prose, peinture, bande dessinée, cinéma, avec qui du projet.
Vous égrenez les différentes parties, là. J'ai l'impression de feuilleter, par exemple, le numéro 4 avec les... Ben, vous avez évoqué 5 parties, c'est ça?
Oui, il y a 5-6 parties.
Elles étaient annoncées, là, dans ce numéro 4 que j'ai sous les yeux. Chapitre 1er, le buisson ardent des poèmes. Même deux poèmes. Chapitre 2e, l'aurore aux doigts de prose. Il y a toujours des jeux de mots assez savoureux. Chapitre 3e, Hutte Hopi. Parce que oui, c'était un numéro sur les Hopis. Que sont les Hopis? Vous l'indiquiez dans le petit texte de présentation. Les Hopis sont partout. Qui pourrait résister à la magie de la culture Hopi et pourquoi y résister? Ce peuple de la paix, Hopi est la contraction de Hopitu Shinumu qui a en effet cette signification, a envoûté avant nous nombre de chercheurs de toutes sortes, historiens de l'art, artistes, écrivains, poètes, des ethnologues comme Marcel Mauss, Michel Léris, Paul Rivet, fondateur du Musée de l'Homme, l'anthropologue suisse Alfred Métraux ou Claude Lévi-Strauss, aussi bien que l'écrivain Georges Bataille, les poètes surréalistes André Breton et Paul Éluard ou le peintre Yves Tanguy, sans oublier l'inclassable Abbé Warburg avec son œuvre magistrale Le Rituel du Serpent. Les surréalistes se sont trouvés d'emblée une parenté avec ces Indiens Pueblos vivant dans la région du nord-est de l'Arizona, à la culture incroyablement inventive incarnée dans les fabuleuses poupées Katsinam, au point de faire figurer l'une d'entre elles sur l'affiche de l'exposition d'objets surréalistes de 1936, à la galerie Charles Raton et de collectionner comme Breton masques et Katsinam. J'arrive à la fin de ce petit texte, c'est très intéressant. L'Ouroboros va apparaître dans les pas de Catherine Bernard et en compagnie des vivantes Katsinam de la galerie Flack. L'Ouroboros est conquis à son tour. Alors grimpons à l'échelle et entrons par le haut dans leur étrange hutte de pierre et Hopi, soit qui mal y pense. Donc on était un texte encore écrit par, il n'y a que des initiales, O-N-S. Ne
oui,
serait-ce
on
pas
se demande.
On se demande si. Hein, qui ça pourrait être, Odile Nguyen Schoendorf? On se demande. Donc j'étais au chapitre 3e, hutte Hopi, avec un jeu de mots, auditeur, auditrice, vous l'aurez compris. Hutte H-U-T-E, tiré Hopi, H-O-P-I. Chapitre 4e. Du côté de chez Max, nous en parlions tout à l'heure. Chapitre 5e, la floraison suisse. Fleur Lémentine, chapitre 6e, Fleur des deux fleuves, et on arrive bientôt au dernier chapitre, chapitre 7e, les idées et les actes, et enfin, dernière partie qui est régulière dans les différents numéros. J'ai le 4 dans les mains, c'est encore le cas dans le numéro 8. Notules et renoncules, ce sont des sortes d'articles sur les, je vois la librairie Esperluette, qui est dans le 5e arrondissement, c'est ça, c'est celle-ci?
Oui, dans le 5e, à Saint-Just. Une très, très bonne librairie, où Xavier Robert fait un très bon travail. C'est un libraire très inventif.
44 rue de Trion, effectivement, dans le 5e. Donc on était en train d'évoquer des librairies où on peut trouver ce numéro. Vous disiez qu'on peut aussi le trouver sur internet, on peut le trouver en Suisse,
on peut le trouver à Genève, à Paris. Recyclable, on peut le retrouver à Paris, on peut le retrouver à Paris à l'atelier, notamment à l'écume des pages, chez Tchan, dans toutes les grandes librairies parisiennes, à Marseille à l'odeur du temps, dans quelques autres librairies, puis si vous ne le trouvez pas, les libraires les commandent, il n'y a aucun problème, vous la recevez très rapidement.
Et je crois que j'ai retrouvé là où je vous avais interrompu, où suis-je encore en train de vous interrompre?
Mais non.
Parce que vous égreniez les différentes parties, vous disiez, dans le polymorphisme de cette revue, avec de la poésie, de la prose, avec Max Schoendorf, et c'est là que je suis intervenu pour faire la lecture du sommaire de ce numéro 4. J'ai interrompu votre fil, non?
Voilà, donc je le renoue. Je le renoue. Donc, oui, mais il y a toujours une partie consacrée à Max, puisque je disais que son œuvre est multiple, donc chaque fois il y a un aspect, soit on parle de l'Urdla, soit on parle de ses peintures, soit on parle du théâtre. Martine Thallet, qui a écrit une très belle thèse sur Max Schoendorf, nous est parfois d'un grand secours, même souvent, pour rédiger des textes consacrés à l'œuvre de Max. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de tombeau, parce que je pensais à Mallarmé, au tombeau d'Anatole, mais il ne faudrait pas croire que cette revue soit funèbre ou triste. Et en même temps, vous avez donné un échantillon de nos savoureux jeux de mots.
Voilà, on aura compris qu'il y a de l'humour.
Des personnes, il y a des personnes d'esprit, il y a de l'humour qui peut être noir, qui peut être rouge. Depuis l'utopie, nous sommes des utopistes et nous ne dédaignons pas de rire. Et c'est une revue qui est agréable, je crois, dans laquelle chacun va trouver son bonheur. Alors, vous parliez des petites notules, c'est vrai que c'est une partie qui d'ailleurs tente à devenir de plus en plus majuscule parce qu'on y met tout ce qu'on aime. D'ailleurs, dans la revue, c'est ce qui nous guide. On nous a dit parfois, vous risquez de manquer d'unité, mais non, l'unité, c'est l'amour, c'est ce qui nous plaît, et ça finit par avoir une cohérence. Et ces notules, ce sont des notes de lecture, ce sont des notes de spectacle accompagnées d'images, ce sont des rubriques qui peuvent aussi être distrayantes, être enrichissantes, qui peuvent vous indiquer aussi certains lieux magiques, comme cette fameuse librairie Loïc Acodilate, où on ne cesse pas de faire de magnifiques découvertes et des rencontres fabuleuses. Récemment, nous avons rencontré Martin Rueff pour parler d'Italo Calvino. C'était une magnifique soirée, et Marie Farge aussi. Donc, cette revue, elle est comme une clé qui ouvre des quantités de continents, de cultures, et qui initie ou prolonge des amitiés riches et intellectuelles, mais non repoussantes. On s'amuse beaucoup aussi, il faut dire. Et ça n'est pas un lieu de tristesse.
Merveilleuse revue de poésie, de métaphysique et de combat, l'Ouroboros offre un nouvel espace à la beauté et à la radicalité dans un paysage intellectuel français de plus en plus étouffant. C'est intéressant ça, c'est en sorte de, pas tout à fait quatrième de couverture, c'est sur le rabat de couverture, ce sont des mentions je ne sais pas comment nommer ça, des remerciements ou des salutations de différentes personnes. Là, je lisais quelques lignes de Aude Lancelin, la fondatrice de QG, le Média Libre. Et d'ailleurs, l'introduction était amusante. Hopi pip oura, on retrouve encore ces Hopi. Séduit par l'Ouroboros, Michel Ménassé, auteur chroniqueur à la revue Europe. Il y a Pierrick Bailly, je crois, qui avait une petite mention aussi sur quelque chose de très simple, me semble-t-il. C'était assez court, mais c'était, je crois, très net. Je vous témoigne de mon soutien fidèle pour l'Ouroboros, que je lis toujours avec grand plaisir. Pierrick Bailly, écrivain, le roman de Jim qui a été adapté au cinéma il y a peu. Il y avait d'ailleurs une projection, je crois, assurée dans un cinéma de la Croix-Rousse que vous aviez mis en avant sur la page Facebook.
Oui, très beau film des frères Larieux. Aussi beau, c'était pourtant difficile. C'était un challenge aussi beau que le roman.
Ni vu ni lu. Moi, je n'ai pas.
Ah, il faut vous dépêcher.
De faire les deux.
Oui, les deux. Mais le roman, il y a la plume de Pierrick qui est exceptionnelle. Et Pierrick nous a donné une nouvelle bien avant d'être aussi célèbre qu'il l'est devenu.
Mais publié déjà alors ?
Oui.
Je l'aurais manqué.
Oui, oui. Vous l'avez manqué.
Les numéros 2 et 3 m'ont échappé.
Ouais,
les numéros 2 et 3 m'ont échappé.
Oui, mais ils sont rares. Le 1 est épuisé, malheureusement, sinon vous l'auriez déjà.
J'ai pu en avoir une version électronique. J'en sais gré à la personne qui m'a transmise une version PDF.
Chanceux. Ne les bruitez pas trop. Les premiers numéros, le 1, il n'y en a plus. Le 2, il n'y en a presque plus. Le 3, très peu aussi. Donc, les premiers numéros, bon, on verra si on les réédite, mais ça commence à être une denrée rare. Et Pierrick est un de ceux qui nous a donné sans barguigner, alors qu'on était encore dans les... Non, on commençait quand même à être un petit peu célèbre à Lyon, mais il nous a donné généreusement une nouvelle qu'il a écrite pour nous, qui est très, très sympathique, illustrée par une chouette de notre amie Chloé Seguin, à qui je fais un petit coucou parce qu'elle fait une expo à Montpellier bientôt. Voilà, donc c'est que du bonheur cette revue, que de l'amitié. Et on a aussi, mais il ne faut pas que je déflore parce que vous verrez dans le numéro 9, il y a quelqu'un qui nous a donné un texte. Enfin bon, je ne parle pas du numéro 9, c'est une surprise totale. On est soutenu aussi par Annie Ernaux qui adore la revue. Et qui malheureusement n'a pas pu nous donner de texte parce que c'est tombé un peu avant son prix Nobel et quand elle a fait le cahier de Lerne aussi où elle a donné tous les textes qu'elle avait dans ses tiroirs qui étaient tous très bien, mais elle avait plus de texte pour nous. Mais on a comme ça des amis, bon, je parle pas des... Alors, il y a les fidèles qui sont aussi fort connus. Daniel Deroulet, Emmanuel Venet, qui nous apporte son humour et sa gentillesse.
Ah, la lettre à un président.
La lettre au président. Ah oui,
c'est assez...
C'est un chef-d'œuvre.
Ah, mais il faut... Ouais. Je l'ai sous les yeux.
Vous l'avez
Monsieur le Président. Ah ben, oui. Je me permets de vous écrire en tant que président directeur général de la société Care Hyper Plus, première entreprise nationale de production de soins psychiques pour vous alerter sur une crise sociétale dont l'ampleur et les conséquences ne laissent pas d'inquiéter nos actionnaires. Comme vous le savez, notre société gère une centaine de cliniques psychiatriques essentiellement en France, mais également en Europe et dans le monde entier. Elle prend en charge la dépression et l'anxiété d'environ 200 000 personnes par an et emploie 5 000 salariés dont plusieurs en France. Notre pratique soignante est fondée sur l'économie du bonheur et ses avatars thérapeutiques, les Happiness Learning Therapy, HLT, mises au point par l'économiste Sean Ferguson et le zoopsychiatre Dick Bastard. Comme vous le savez sans doute, celui-ci a prouvé, grâce à une méta-analyse rigoureuse, que plus un chien est heureux, plus il remue la queue. Son programme d'apprentissage du balayage caudal, Tail Wiggling Training, TWT, chez les chiens malheureux, fait preuve d'une efficacité jugée bonne à très bonne dans 97,72% des cas. Cependant, soucieux d'éviter tout anthropomorphisme déplacé, les professeurs Ferguson et Bastard récusent la transposition de ce modèle animal à notre espèce, même s'ils admettent que certains humains manifestent aussi leur bonheur en remuant la queue. Bon, je vais en rester là. C'est dans le numéro 7 qu'on peut encore trouver, hein, c'est ça ? Ce numéro 7 à la robe de glace.
On peut encore le trouver, soit
effectivement,
sur notre site, soit...
C'est très amusant.
Soit auprès de Leica Codilat, par exemple.
Il y avait aussi le poème sur le travail. Je ne sais plus dans quel numéro je l'avais trouvé. Et je crois que c'était également celui-ci, La complainte de l'emploi, de Daniel Deroulet.
Non, c'est Daniel Deroulet, oui, notre ami Genevois, qui est aussi un très fidèle de la revue.
Ah, il faut le lire aussi. Hein. Je vais lire pas la première strophe, mais seulement le tout début. Vous vous rattacherez directement à... Vous interviendrez en tant que. Vous justifierez d'une expérience confirmée. Vous rejoindrez la tête d'une équipe. Vous élaborerez les définitions des principes. Vous piloterez la complexité. Vous optimiserez les coûts sociaux. Vous côtoierez des dirigeants. Vous rejoindrez un environnement gagnant. Vous dynamiserez un département performant. Vous contribuerez au leadership mondial. Vous impulserez une véritable politique. Vous valoriserez le capital humain. Et ça continue, je crois que je sais bien d'en rester sur le capital humain, voilà, parce que ce texte-là me semble assez dépourvu.
Oui, et on sent évidemment la critique sociale.
Avec une deuxième partie, ce n'est pas que sur le mode recrutement, il y a aussi « Nous sommes au regret de vous annoncer, avec toute la compréhension qui vous est due, malgré vos prestations positives ». Une fusion sans licenciement. N'hésitez pas à contacter nos psychologues. N'oubliez pas de rendre les clés de votre bureau. Déposez le badge de la machine à café. Ne pensez surtout pas que nous pensions que... Excusez notre franchise. S'il ne tenait qu'à nous, vous le savez bien. L'honneur que vous nous faites malgré tout. Sans minimiser votre drame personnel, songez, pour le confort de nos clients, les conséquences involontaires. C'est un poème. Hein. C'est écrit en vers. Je cherche à respecter la métrique parce que je pense que j'y parviens un peu. C'est fait exprès. Hein. Ce sont seulement des sortes de... Et comment appeler ça? Des éléments de langage?
C'est un poème en vers libre, oui, à partir de la grande poésie qu'on trouve dans les entreprises de nos jours. Et donc il y a tout ce côté satirique qui est présent dans la revue et qui nous enchante. Ce qu'on ne peut pas mettre dans le micro, ce sont les images.
Et d'ailleurs, l'objet lui-même, hein, on n'en parle pas assez, c'est quel format? C'est pas tout à fait du format A4, mais c'est de...
Je vais sûrement me tromper de quelques millimètres, c'est 26,1 par 20,6, quelque chose comme ça. C'est presque du 21-27, mais pas tout à fait.
Un poids, on n'est pas loin du kilo, non?
Ça fait carrément un kilo, effectivement.
Pour 200 pages à chaque fois? Oui, là je suis à 220.
C'est autour de 200 pages, un peu plus, un peu moins. On est allé jusqu'à 232 pages.
Broché. Ce n'est pas relié parce que relié, le coût serait différent, je suppose.
C'est un beau travail.
Ah oui, non, tout à fait.
C'est un très bel objet. D'ailleurs, il faut que je pense à remercier Perluette et Beaufix, qui sont nos infographistes depuis le premier numéro, Charlotte Delettre, qui fait un travail formidable. On a choisi de faire un objet de luxe, alors ça on nous l'a un petit peu reproché.
Le prix va avec, on ne l'a pas encore indiqué, on est à un peu plus de 20 euros, mais enfin, on n'est pas à 30 non
plus.
Voilà, c'est quand même,
on se maintient depuis le début à 25 euros, même pour les abonnés, maintenant c'est 20 euros. Donc, en Suisse, on nous a reproché de ne pas être assez cher. Et immédiatement, chez Payot, pour les dénoncer, ils ont augmenté le prix. Parce qu'ils ne l'auraient pas vendu, ils voulaient l'arranger dans les revues d'art, des ARD, il fallait que le prix soit confortable, soit suisse, voilà. Donc, le rapport qualité-prix est quand même très intéressant, parce qu'on a une qualité de reproduction des œuvres d'art.
Le papier aussi.
Le papier,
très épais,
l'encre,
très...
tout est de qualité.
Et donc vous disiez que visuellement...
Et le primeur aussi. Merci, la CPEC.
Je vous ai coupé visuellement, vous disiez qu'il y a beaucoup à voir.
Il y a beaucoup à voir, c'est pratiquement moitié-moitié
texte et
images. Et chaque fois, voilà, il y a une sorte de dialogue entre ce qu'on propose, qui est dicté par nos goûts, mais qu'on espère partager parce que c'est quand même très varié. Il y a une connotation surréaliste quand même, faut le dire, parce que on fête le centenaire du manifeste du surréalisme, et ne serait-ce que grâce à Max, il y a une inspiration surréaliste dans cette revue, bien que il y ait des œuvres qui ne relèvent pas du tout du surréalisme, des œuvres du XVIe siècle
ou les bandes dessinées aussi,
ou des bandes dessinées de tout style, avec l'origine de Martin Panchaud qui déconcerte les lecteurs, mais enfin qui a quand même été couronné par le prix de la bande dessinée, qui est très talentueux. Donc dans tous les domaines, enfin bon, je fais de la pub, mais je ne peux que faire d'autre. Dans tous les domaines, on va s'adresser à ce qu'on aime le plus et qui est de qualité, on pense, enfin les retours nous le disent.
Vous évoquiez tout à l'heure Annie Ernaux, effectivement, dans ce numéro 7, à la fin, sous de belles plumes. mentionnais tout à l'heure, je lisais les quelques lignes de Pierrick Bailly. Annie Ernaux, c'est même un poil plus long. Le numéro 6 de l'Ouroboros m'enthousiasme peut-être encore plus, si c'est possible, que les précédents. Annie Ernaux, écrivaine, prix Nobel. Non, c'est une reconnaissance par des personnalités de talent, de qualité, enfin, qui en plus ont une belle œuvre derrière elles. Pierrick Bailly, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas, mais ça,
oh, Pierrick,
c'est bien parti. Et Annie Ernaux, c'est reconnu mondialement.
La foudre. Annie Ernaux, prix Nobel, et qui vient de s'abonner d'ailleurs, et avec qui j'étais en correspondance. J'ai pas attendu son prix Nobel pour la solliciter. C'est quelqu'un que j'aime depuis longtemps, que je suis depuis longtemps, et avec qui on échange une correspondance très, très chaleureuse, aussi au niveau de l'engagement, au niveau de nos idées communes anticapitalistes.
Vous le disiez bien dans ce que je lisais à l'antenne et qui est indiqué sur la page 3, je crois, c'est ça, me semble-t-il, l'Ouroboros. À chaque fois, il y a une thématique différente. À la robe de glace, se met à table, au pied d'émeraude, aux cheveux de lune ou encore aux défenses d'ivoire. Eh bien, il y a toujours la mention ensuite dessous. Littérature, poésie, philosophie, art visuel, BD, cinéma, photographie, théâtre, musique, psychologie, psychiatrie, psychanalyse, ethnologie, anthropologie, mythologie et... pratique militante. Le pratique militante est décroché.
Voilà, c'est la chute, mais la chute qui est une ascension. Et en cela, on se réfère, je parlais des 100 ans du manifeste du surréalisme, on se réfère immodestement à nos ancêtres, à Minotaure, à la revue Le Manomètre, d'Émile Malespine, qui habitait 47 cours Gambetta. C'est surréaliste qui, en même temps, avait un projet de changer le monde, qui, eux aussi, alliaient la poésie, la peinture et les pratiques militantes.
Je ne crois pas qu'on pourrait écouter tous les titres qu'on avait prévus, parce que le temps, file tout de même. Qu'écouter alors? Parce qu'il faut qu'on se ménage une pause avant d'entrer dans la dernière partie d'émission. J'ai l'affiche rouge sous les yeux de Léo Ferré, ce beau texte d'Aragon. Nous parlions du manifeste du surréalisme. J'ai également le titre de Jeannette, Porque te vas. Et enfin, un jour de Ferrat qui chante Aragon. On retrouve Aragon. Pied de nez, est-ce qu'on mettrait le titre de Jeannette?
Non. Oui, j'allais dire Jeannette.
Eh ben, très bien.
Donc. En plus, une femme, parce que je m'aperçois que je, oui. Je parle beaucoup des hommes. Bon, non, j'ai parlé d'Annie Ernaux. Donc, il faut entendre une femme.
Jeannette, avec ce titre Porque te vas, et nous continuerons à plus de 14h50. La chronique de Francis n'aura pas eu lieu cette semaine prochaine. Peut-être, auditeurs, auditrices, il faut rester à l'écoute des émissions de Radio Canu et surtout de Spectaculaire. À 14h et un peu plus de 55 minutes. Oui, auditeur auditrice, je pourrais tout à fait dire 58, mais je préfère, c'est pas tout à fait 55, si c'est un peu dépassé. Nous entrons dans la dernière partie d'émission avec notre invité toujours, Odile Nguyen Schoendorf, pour parler de la revue L'Ouroboros. Le numéro 9 va arriver prochainement, le numéro 8 est sorti juste avant l'été. Et donc, dernière partie d'émission avec traditionnellement quelques annonces à l'agenda. Prima la musica, pour ce qui est de la musique, il y a quelques concerts à venir du côté de l'auditorium. L'orchestre national de Lyon va donner un concert gratuit demain soir, jeudi 10 pour les étudiants, et le programme sera plus ou moins repris le lendemain, vendredi 11 octobre, avec Leonard Slatkin à la direction, Lambert Wilson récitant d'une œuvre qu'a composée Leonard Slatkin, qui sera chef d'orchestre pour ce concert, et qui est donc composé et qui a également été directeur musical de l'ONL année 2010 jusqu'à 2017, je crois. D'autres concerts seront à venir, mais j'en parlerai plus tard. Ce sera plutôt en novembre, j'ai l'impression qu'il y a un peu relâche pour les vacances scolaires. Si on traverse de l'autre côté du Rhône, sur la presqu'île, place de la Comédie, l'opéra Wozzeck d'Alban Berg bat son plein. Il a commencé, la première était mercredi dernier, il se termine lundi prochain. Je l'ai vu la semaine dernière. Alors, musicalement, c'est toujours magnifique. Surtout, cette œuvre d'Alban Berg est absolument stupéfiante, prodigieuse. L'orchestre est dans une forme épatante. Daniele Rustioni, le directeur de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, va très bien aussi, se porte très bien, dirige parfaitement. Le plateau musical est excellent. Toujours, c'est toujours, de mon côté, la mise en scène qui blesserait un petit peu. Le texte ne me semble pas forcément servi. Alors, il n'est pas pour autant desservi non plus. Il y a de beaux tableaux, un bel éclairage parfois, des costumes intéressants, mais pour ce qui est des décors et du choix d'intrigue qui est mené par le metteur en scène, ça me semble peut-être un peu plus discutable. Du théâtre, oui, il y a un peu de théâtre. On parlait de langues différentes. Il y aura de l'italien ce soir au Célestin. Ah non, pas de l'italien, non, du napolitain. Du napolitain de Gian Battista Basile. C'est le Re Chichinella, le roi. Je ne sais plus très bien quelle sera la traduction française de ce mot Chichinella. C'est au Célestin. Ça commence ce soir. C'est donné jusqu'à la semaine prochaine et c'est un spectacle très étrange. Je peux vous lire la présentation que font les Célestins de cette pièce mise en scène par Emma Dante. Voici un roi devenu poule, qui chaque jour pond un œuf, en or. Emma Dante n'en finit plus de piocher dans le délicieux conte des contes de Gian Battista Basile. Après la scortetta cata et pupo di zucchero, elle nous livre cette nouvelle fable atrocement drôle. C'est jusqu'au 13 octobre, dans la salle principale des Célestins. Le TNP donne aussi une pièce qui commence ce 9 octobre également, ce soir. Il s'agit de Le Ring de Catharsis, c'est une création de Alice Lalois. C'est jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 19. Et puis, c'est à peu près tout aussi. Il y a aussi du théâtre Ariane. Ah non, la pièce Ariane qui est une adaptation de La Belle du Seigneur d'Albert Cohen est terminée. Les représentations qui avaient lieu à la fois au Théâtre de la Renaissance ainsi qu'au Toboggan se sont achevées. J'ai pu le voir, c'était très beau, c'était très bien. La langue d'Albert Cohen était bien sur scène. La mise en scène d'Olivier Borle était très juste, très, très belle. C'était émouvant et vraiment un spectacle poignant. Une reprise pourrait avoir lieu, éventuellement la saison prochaine, disons 2025. Je vous tiendrai au courant. Et j'en reste là. Le théâtre aussi, l'Assemblée, notre invité de la semaine prochaine, Thomas Poulard, eh bien, dans l'Assemblée. C'est le nom de ce nouveau lieu. Il y a demain un spectacle, comment appeler ça, une sortie de résidence. Le soleil brille pourtant dehors. C'est le collectif Maison Vague. C'est à 19h30, attention, 19h30, théâtre fantastique, dans une maison à la lisière d'une forêt. Adèle vit avec Samy, son partenaire, leur enfant a disparu. Sans laisser de traces, les recherches ne mènent à rien et le temps s'étend alors à l'infini dans l'attente d'une explication. Les parents se mémorent les souvenirs de leur vie passée et cherchent à travers ce mystère à reconstruire l'histoire de leur propre relation. C'est ce dont nous parlerons peut-être la semaine prochaine avec notre invité. Nous pourrons revenir sur ce spectacle qui est donné sur une date unique. Et c'est tout. Festival, je crois que Gilles en a beaucoup parlé tout à l'heure, Festival Lumière va commencer. La Biennale a également commencé et tout cela va continuer. Et l'exposition Temps du rêve est à venir bientôt. Rappelez-vous, en début de saison, en ouverture de saison, nous recevions Christian Sermet pour parler du musée Confluence. Et donc le temps d'un rêve commencera le 18 octobre prochain. Musée Confluence, j'aime bien donner les dates, c'est jusqu'au 24 août 2025. Ça fait loin ça, hein. Odile Engenschendorf. Mais vous, le numéro 9 qui va arriver, ce n'est que... Pour l'instant que le début, il y aura un numéro 29, un numéro 59.
Oui, bientôt 2025.
Tout est à venir
tout
encore.
Est tout vert.
Les numéros 10 séances sont déjà un peu anticipés ou non, mais c'est quand même tôt.
Et, ah oui, et nous aussi, nous chroniquons le théâtre, le cinéma et même la danse, parce qu'on a eu une interview de Boris Charmat.
Mais qui est parti, hein, il est à Berlin maintenant.
À Wuppertal.
Je dis que c'est Berlin, je ne sais même plus. Non, c'est peut-être pas Berlin même.
Et peut-être Berlin maintenant, qui sait, peut-être que je ne l'ai pas suivi fidèlement.
Non, c'est Wuppertal, c'est bien, c'est Pina Bausch.
J'aime bien Wuppertal. Et donc, voilà, on n'arrive pas, j'aurais voulu citer tout le monde, tous ces talents qui coopèrent à notre Ouroboros.
Il y a des beaux trombinoscopes qui sont faits à la fin des numéros. On voit comme ça les photos de tout le monde, on aperçoit Philippe Roger, par exemple.
Voilà,
qui tient une émission
Philippe Roger,
à Radio Canut,
qui est fidèle pour nous donner ses chroniques cinéma, qui sont fabuleuses et que je remercierai jamais assez de sa participation. Tout le monde est
Prisca Agustoni, on voit, il y a beaucoup.
Prisca Agustoni.
Jared Muralt, qui est intervenu dans plusieurs numéros.
Le fabuleux Muralt, Jared Muralt.
Oui. Dessinateur allemand. Moi, j'aurais bien aimé le recevoir quand j'ai feuilleté la revue.
Suisse-allemand. Germanophone. Voilà. Suisse-allemand.
Et qui vit à Berlin, je crois, non? Ou disons natif peut-être de Berlin.
Oui, je crois. Oui, oui.
Quand j'ai feuilleté la revue, moi, je pensais que tout le monde était local. Je me suis dit, ça pourra faire plein d'invités.
Il y a cet axe franco-suisse. Mais parfois, ils peuvent venir jusqu'à nous, hein, c'est pas exclu, hein, que les Suisses viennent jusqu'à Lyon, ça peut arriver, on va bien jusqu'à Genève. Hein.
Donc vous l'avez indiqué, on peut vous trouver sur Internet, il y a une page
sur
Facebook.
Sur Internet, oui,
il y a un
sur
site
Facebook,
aussi.
Oui, un site, donc j'ai donné l'adresse tout à l'heure.
Revue Louroboros.
revueLouroboros.fr et puis...
Dans les bonnes librairies lyonnaises,
voilà,
on peut trouver ce
numéro.
Dans
les bonnes librairies lyonnaises, on est dans quelques librairies hors de Lyon aussi, mais surtout, on est quand même surtout lyonnais, avant tout.
Eh bien, auditeurs, auditrices, on n'aura pas tout dit, mais si quand même, on a dit beaucoup de choses.
Oui, et on espère être plus que jamais prophète en notre pays. Voilà, parce que parfois on est plus reconnu de l'autre côté de certaines frontières.
Oui, j'ai vu qu'il y avait une belle bourse suisse qui vous était attribuée, une bourse pour l'écriture, c'est ça? Une bourse pour
ça,
la poésie?
Oui, c'est la Fondation Michalski et la Fondation Pro-Helvétie.
Pour l'écriture et la littérature.
Voilà, on est assez présents.
Je vois que la région et Villeurbanne aussi soutiennent.
Oui, la région nous soutient et on tient à les remercier parce qu'ils ne nous ont pas lâchés.
Eh bien, fin d'émission, quel titre alors? Un jour de Louis Aragon ou bien l'affiche rouge de Louis Aragon? Alors, c'est Jean Ferrat pour...
Alors, Aragon ou Aragon?
Voilà, Jean Ferrat ou Léo Ferré, en plus, il y a une sorte... C'est par onomase, hein, c'est ça le terme?
Oui, on va tirer au sort.
Quand ça se ressemble un petit peu?
On tire au sort.
Ah ben, je ne sais pas comment tirer au sort.
L'affiche rouge.
Alors, on met l'affiche rouge. Odile Engenschendorf, je vous remercie. Je termine l'émission en annonçant, auditeurs, auditrices, que vous pouvez tout à fait rester à l'écoute des bandes continues qui sont arrivées, qui vont venir dans quelques instants, une fois que l'affiche rouge, ce titre, sera terminé. Après, il y aura à 16h le blues des Canuts. 18h Mayday, 19h Canu Info, 20h Idées Noires, une émission de l'UCL, 21h la bande son de nos révoltes, et pour finir la journée, de 10h à minuit, Boulimix, émission Funkystery. Est-ce que le mot Funkystery pourrait qualifier peut-être un peu l'Ouroboros?
Oui,
pourquoi pas.
Ça peut très bien.
Funkystery, c'est très bien. Punkystery même. Merci beaucoup, Odile Nguyen-Schendorf. Je vous invite, auditeurs et auditrices, à donc trouver ces numéros. Alors, les premiers sont un peu épuisés, mais les suivants sont encore disponibles. Je crois même qu'il y a des librairies aussi. Je crois que l'une, la case en plus, me semble-t-il, sur la,
oui,
le cours Jean Jaurès.
Librairie de BD.
Qui a repris, voilà, il y a peu.
Qui a été très intéressée.
Bédétique auparavant.
Par la présence de Jared Muralt, de Martin Panchaud, de Priscilla Horviller et de tous ces BDistes.
Et donc on peut trouver un numéro.
Y compris l'épicerie lyonnaise aussi, donc, qui est présente avec nous.
On se reverra peut-être pour les numéro 9, bon ben il est à venir. Numéro 10, éventuellement, on va fixer un rendez-vous, on essaiera de voir ça, parce que numéro 10, il devrait être en mai peut-être,
voilà,
mai 2025.
Avec les beaux jours.
Avec les beaux jours. Merci beaucoup, Odile Nguyen-Schendorf. Nous nous quittons donc avec l'affiche rouge de Léo Ferré, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Peut-être Francis sera-t-il là, mais surtout Thomas Poulard pour l'Assemblée, un théâtre dans le 3e arrondissement, sur la rue Saint-Eusèbe, juste à côté de l'avenue Félix Faure. Léo
merci
Ferré, pour ce, je vous en prie, je vous remercie encore, Odile. Portez-vous bien tout le monde, au revoir.
Aragon, l'affiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.